Quel est ce claquement qui me fait sursauter? Fermons les yeux et faisons l'expérience d'un paysage, celui des fonds marins. Si j'étais un paysage,
Si on commence à mettre des micros sous l'eau, on va se rendre compte qu'il y a finalement une diversité de sons assez importante. On peut avoir des poissons qui nous tournent autour et qui font des clapotis. On peut avoir... Alors il y a tout un tas de sons qui peuvent se produire dans l'océan, même si on ne les entend pas tous quand on est en plongée, mais on a des crabes qui peuvent claquer les pinces, ça peut faire comme un petit bang qu'on entend très distinctement sous l'eau. Voilà, les poissons qui se baladent, le ressac, il peut y avoir quand même pas mal de sons. Pour les mollusques, c'est vrai que pour l'instant, le son, j'ai pas vu quelque chose de très significatif sur le son des mollusques.
Derrière le silence des mollusques se cache la voix de Nicolas Puylandre. Si j'étais un naturaliste du 21e siècle, je serais...
C'est extrêmement diversifié.
Nicolas Puylandre.
On peut avoir un milieu extrêmement paradisiaque et l'image d'Épinal, des patates coralliennes avec des couleurs fantastiques, une diversité de formes et donc de couleurs absolument extraordinaires, à des fonds sableux, rocheux, qui paraissent plus pauvres en diversité, en tout cas corallienne, mais qui peuvent aussi avoir une vie insoupçonnée dans la première couche de sable, par exemple. Quand on travaille un petit peu plus en profondeur, on peut aussi avoir vraiment des paysages, des vastes étendues de sable, des vastes plaines, qui paraissent également un peu vides, avec des rochers par-ci par-là. Voilà, donc ça peut être très diversifié. Pour une note un peu plus pessimiste, on va dire, ça nous arrive également de plonger dans des endroits où les habitats sont extrêmement dégradés, de tomber sur des récifs coralliens qui sont en partie morts, avec le blanchiment des coraux en particulier, mais pas que. On est aussi tombé sur des zones assez polluées. Ça nous est arrivé de remonter des filets de milieux assez profonds, remplis de canettes de bière, de plastique et de choses comme ça.
Le Nouveau Monde, sur les pistes du vivant. Portrait grandeur nature de naturaliste du 21e siècle. Ce souffle, c'est celui des grandes découvertes et des expéditions scientifiques du 18e siècle à aujourd'hui. Depuis près de 250 ans, naturalistes et systématiciens parcourent le monde à la découverte de sa faune et de sa flore. Si les séquenceurs de génome ont remplacé les planches et les fusains, la diversité du vivant ne cesse de nous étonner. Les chiffres donnent le vertige. Pour 2 millions d'espèces déjà décrites par la science, on estime encore de 8 à 30 millions le nombre d'espèces toujours inconnues. Alors, qu'est-ce que l'histoire naturelle aujourd'hui? Comment exerce-t-on le métier de naturaliste? Quelle émotion ressent-on lorsqu'on découvre une nouvelle espèce? Pour y répondre, vite, embarquons, avec notre curiosité comme boussole, mettons le cap sur l'aventure et allons explorer de nouveaux mondes. Deuxième escale, bavard comme une carpe. L'exploration des fonds marins.
Dans l'équipe, en fait, on a deux programmes d'expédition qui s'appellent La Planète Revisitée et Tropical Disphibintos. Notre terrain de jeu favori, c'est l'Indo-Pacifique. Et même plus particulièrement, on va dire, le centre-ouest pacifique. On a fait énormément de missions en Nouvelle-Calédonie, on a fait beaucoup de missions aux îles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, à Taïwan. Dans d'autres zones, on a fait plusieurs missions autour de Madagascar, Mayotte, Glorieuse. Et on a aussi fait quelques missions dans les Caraïbes, donc Guyane, Guadeloupe, Martinique.
Position
Koumak, Nouvelle-Calédonie.
Latitude
164 degrés est.
Longitude
20 degrés sud. Profondeur 500 mètres. Contrairement aux idées reçues, les paysages sous-marins peuvent être très bavards et les carpes ne sont pas muettes. Dans ce deuxième épisode, munissons-nous d'un scaphandre, d'une épuisette et d'un maillot de bain pour explorer un écosystème encore très peu connu, celui des fonds marins. Prêt pour un petit cours de plongée ou de pêche à pied en compagnie du systématicien Nicolas Puylandre? Alors vite, glissons-nous dans ces bagages.
Alors l'objet que je mets dans mes bagages et qui est le plus emblématique de mon travail, à moi vraiment en particulier, c'est des plaques avec des tubes. On a des plaques qui contiennent 96 tubes, et dans chacun de ces tubes, on va mettre un morceau de tissu d'un animal qu'on a collecté sur le terrain, et quand on va revenir au labo, on va séquencer chaque morceau, chaque ADN dans chaque tissu, dans chacun de ces tubes. Et c'est devenu assez emblématique de la façon dont on travaille actuellement. On collecte énormément de spécimens pour avoir vraiment une idée globale de la diversité des endroits dans lesquels on va. Donc voilà, ça serait ça mon objet.
Et un maillot de bain quand même.
Un maillot de bain, même si le rythme de travail sur les expéditions ne nous permet pas toujours d'aller se baigner, on essaye toujours d'être optimiste et on emmène un maillot de bain. Et à chaque fois, en fait, on a certaines missions qui sont vraiment côtières. Alors effectivement, là, plus avec des approches en plongée, ou aussi on récolte à vue pendant la marée, donc on va simplement sur la plage.
Donc la pêche à pied.
La pêche à pied, classique, qui marche très bien pour une certaine faune qui vit dans la zone intertidale. Alors, tous ceux qui font de la pêche à pied le savent bien, hein, c'est une histoire de flair. On a effectivement des gens qui sont extrêmement doués pour retourner le bon caillou sous lequel sera cachée l'espèce que l'on cherche. Pour les cônes, ça marche relativement bien, c'est pas forcément des espèces qui vont se cacher extrêmement bien, ou... Et en plus de ça, c'est des espèces d'assez grande taille. Donc voilà, on a une certaine diversité de cônes. Même d'ailleurs, la zone la plus diverse en termes d'espèces de cônes est cette zone justement peu profonde, entre 0 et 20-30 mètres. Donc c'est finalement relativement assez facile de collecter des cônes, en étant bien évidemment prudent pour éviter de se faire piquer. À pied ou en plongée ou même en palmastuba, on arrive à collecter assez facilement. Alors beaucoup de cônes vivent un peu enterrés dans le sable. Donc il y a aussi chaque groupe... à ses spécificités. Effectivement, pour beaucoup d'espèces de cônes, il va falloir gratter la surface, les 5-10 premiers centimètres de sable sous l'eau pour trouver les cônes, dont certaines espèces vivent constamment enfouies dans le sable, d'autres ne sortent que la nuit. Donc voilà, il y a différents paramètres à prendre en compte quand on veut collecter.
Et parfois, vous partez en plus grande profondeur.
Voilà.
Comment ça se passe à ce moment-là, le voyage, l'accès au lieu de collecte ?
Alors effectivement, quand on est ce qu'on appelle les ateliers marins, donc on est au bord de l'eau, au bord de la plage, on a chaque jour des équipes de plongeurs qui partent, des équipes de récolteurs qui partent et qui reviennent chaque jour donc, à l'atelier pour trier le matériel. Quand on veut collecter plus profond, c'est-à-dire les zones où les plongeurs ne peuvent pas aller, ou plus difficilement en tout cas, c'est-à-dire en gros à partir de 50-100 mètres jusqu'à plusieurs milliers de mètres, là on fait des missions sur bateau. C'est-à-dire qu'on va embarquer sur un bateau, on va faire plusieurs heures, voire même quelques jours de mer pour aller jusqu'au site, et on va rester 15 jours, 3 semaines, 1 mois sur le site pour collecter en milieu profond. Là, globalement, il y a deux approches qui existent. Une qu'on utilise assez peu, donc les robots sous-marins, qui permettent de faire des très belles images, qui permettent également de collecter, mais en petite quantité. Donc ça va être des collectes très ciblées. Tel échantillon qu'on voit à la caméra, on va aller le chercher en particulier.
Là, donc en faisant des recherches sur vous et sur vos missions, j'avais vu effectivement un robot qui s'appelait ROV,
il me semble.
Qui est équipé de sonar, de caméras HD, de systèmes à propulsion qu'on peut piloter à distance, qui paraissait assez incroyable. J'avais l'impression de me retrouver dans 20 milieux sous les mers. C'est ce genre d'engin que vous utilisez ?
Oui, alors on ne l'a pas utilisé souvent, on l'a fait lors de deux missions récemment en Nouvelle-Calédonie justement, des missions qui s'appelaient Canadip. Et effectivement, on a déployé un robot, donc ce ROV, qui est piloté depuis le bateau par une équipe d'ingénieurs, donc pas par nous, il y a vraiment une équipe spécifique qui vient pour ce robot.
Technologique.
Ah, ça nécessite pas mal de compétences pour pouvoir le piloter. Donc ce sont des robots qui font des images HD, des films. Donc effectivement, on a pu filmer pour la première fois ces zones qu'on connaissait finalement assez bien, parce que c'est des zones où on a pas mal été collectés. Mais nous, on remontait le matériel à la surface sans savoir vraiment à quoi ressemblait l'habitat. Et donc là, pour la première fois, on a pu voir ces habitats profonds. Donc quand je dis profond, c'était entre 500 et 1000 mètres qu'on a filmé.
Au-delà des plongées, là, c'est vraiment...
Bien évidemment, des zones où on ne peut pas aller en plongée. On a fait un petit peu de collecte grâce à ces robots. Mais en fait, l'intérêt pour nous, en tout cas pour notre équipe, l'intérêt de ces robots, c'est quand on les couple avec des approches plus traditionnelles. Comme je le disais, ces robots, ils permettent de faire des super images, ils permettent de collecter un petit peu, d'avoir des informations sur l'habitat qu'on n'a pas autrement. Mais quand on veut collecter en grande quantité pour vraiment avoir une idée de la diversité, pour pouvoir collecter des espèces plus rares et potentiellement nouvelles que l'on va vouloir décrire, finalement, les approches avec robots sont assez limitées. Donc là, on utilise des approches plus traditionnelles, par dragage et chalutage, donc avec des engins spécifiques pour la recherche scientifique, c'est-à-dire des dragues et des chaluts de petite taille, mais qui vont quand même...
Pour limiter l'impact sur le milieu naturel, j'imagine.
Exactement, c'est bien évidemment de plus en plus d'actualité, et à chaque fois maintenant qu'on fait une demande de permis pour aller faire ces missions, on nous demande quel sera l'impact de vos engins de collecte sur l'habitat. Donc bien évidemment, ces engins sont des engins traînants, c'est-à-dire qu'ils vont se poser sur le sol et on va les traîner pendant quelques centaines de mètres. Donc pour la drague, c'est 80 cm de largeur, pour le chalut, c'est entre 2 et 3 mètres de largeur. Donc c'est un impact, bien évidemment, sur l'habitat. Cet impact, il est limité, il est finalement négligeable par rapport à l'impact des chalutiers de pêche. Pour vous donner une idée, en fait, on a estimé qu'en 40 ans de mission, en milieu marin profond, avec cette approche-là par chalutage et dragage, on a impacté une surface au fond qui est équivalente à la surface impactée par un seul chalutier de pêche en une semaine. Bon, ce qui est un peu rassurant aussi, c'est que justement ces robots dont on parlait juste avant, grâce à ces robots, en fait, on est retourné sur des zones où on avait laissé traîner nos chaluts, nos dragues, quelques années auparavant. Et notre objectif, c'était d'essayer de voir si on pouvait retrouver les traces de ces dragues et de ces chaluts. On les a jamais retrouvées. Et pourtant, on avait la coordonnée exacte. A priori, ça veut dire qu'il y a une bonne résilience du milieu et que ces traces ont rapidement disparu, ont rapidement été recolonisées par la biodiversité.
Donc, on parle de l'océan Indien, on parle du Vanuatu, on parle de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que parfois vous partez d'une façon plus proche, par exemple en Méditerranée ?
Oui, de façon très étonnante. Donc, on a été sollicité par la Corse récemment. Donc, on a fait plusieurs missions en Corse, trois missions en fait, en 2019, 2020, 2021. On est passé entre les gouttes du Covid en 2020 et 2021. Donc, l'objectif, c'était effectivement de faire un état des lieux de la biodiversité en Corse dans une zone finalement qu'on connaît bien évidemment très bien comparé aux zones où on va habituellement. Donc on savait qu'on y découvrait beaucoup moins d'espèces nouvelles. On savait quand même qu'il y avait quelques groupes, je parle en particulier sur les mollusques, mais c'est vrai pour les autres groupes aussi, on savait qu'il y avait quelques espèces où on se disait « Ah, finalement, il n'y a peut-être pas qu'une seule espèce là-dedans, il y en a peut-être deux ou trois, parce qu'il y a de la variabilité morphologique, etc. » Et finalement, on a eu la bonne surprise d'avoir des résultats, notamment avec les approches moléculaires, qui nous montrent qu'on a sous-estimé la diversité, encore une fois, en Corse. Il y a plus de groupes pour lesquels il y a plus de diversité que ce qu'on croyait. Voilà, c'est finalement pas rare d'avoir une espèce décrite depuis 200 ans qui se révèle être un complexe de 3, 4, 5 espèces différentes.
Et sur d'autres terrains d'études moins connus, j'imagine que vous avez le bonheur de découvrir des espèces totalement nouvelles. Comment ça se passe ? Racontez-nous.
On en découvre à l'appel. Chaque mission, c'est quasiment des dizaines de nouvelles espèces. Et chaque année, c'est des centaines de nouvelles espèces qui sont décrites à partir du matériel que l'on récolte.
À suivre, le nouveau monde sur les pistes du vivant. En compagnie du systématicien Nicolas Pilandre. Prochaine escale, Love on the Beach. Les conidés, un portrait en technicolor. Le Nouveau Monde est un podcast original du musée Buffon en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Il a été réalisé par Marie Casanova.